Oui, alors, la barge russe, et qui est tous les jours, avec Johnny Chirbeck, qui parle de philosophie, d'actualité, en soi, assez intéressant, n'est-ce pas? Et par quinzaine, donc, le mercredi soir, il y a The Russian Fortune, à 21h, 21h30 même, avec Helmut Schwartz. C'est essentiellement musical, n'est-ce pas? Et il fait quelques à-propos avec la barge russe, Johnny Chirbeck. C'est deux compères travaillent ensemble. Ils sont l'un pour l'autre et l'autre pour un, n'est-ce pas? Leurs émotions peuvent aller de pair, mais très, très rarement, je dirais. L'une peut aller sans l'autre, et l'autre aller sans l'autre.
Donc, je suis Romain Mallet, vice-président de l'association Imaginaire, qui fait surtout la promotion des littératures de l'imaginaire à Angers. Il y aura notre salon littéraire dans un mois, au salon Kurmanski. Et je m'occupe aussi, on fait un petit peu de jeu de rôle quand même, vous avez peut-être entendu parler de certains des événements qu'on a fait. Et je m'occupe aussi de notre émission de radio, le mardi pair sur Radio G. Et pas mal de mes chroniqueurs sont des métalleux, métalleuses, on peut le dire. Donc j'ambiance souvent la chronique par des musiques de métal. Et on a parlé jeu de rôle aussi pas mal dans cette émission. Donc j'allais souvent chercher un peu des musiques qui étaient vraiment en rapport au son. Même carrément fait pour certains jeux de fin. Maintenant, on ne le fait plus trop parce que maintenant il y a une émission sur le jeu de rôle depuis 2 ans sur Radio G qui s'appelle Les voix du scénario de lundi. Donc, je pense que ces deux hobbies ont eu un petit peu la même ligne de vie, musique métal et jeu de rôle. Naissance, le métal, je dirais, avec le premier album de Black Sabbath en 1970. Le jeu de rôle, on a dit 1974, hein, on a fêté les 50 ans l'année dernière. Popularisation dans les années 80, et puis. Dans les années 80, alors ça va concerner le jeu de rôle plus vite, je dirais, que la musique métal. Un mouvement de panique morale, alors surtout aux États-Unis. En France, ça arrivera plutôt dans les années 90 avec le Graal du Mât. Et puis concurrence aussi du jeu vidéo pour le jeu de rôle. Et puis au début des années 90, Kurt Cobain devient la nouvelle égérie des jeunes et annonce que le métal, c'est nul, c'est ringard. Et donc tout le monde passe au rage. Et puis réhabilitation, on va dire, plutôt dans les années 2000. Hein. Alors le métal, on va dire, a repris un peu de popularité à la fin des années 90 avec le néo-métal. Et puis aujourd'hui, il y a le Hellfest à Clisson, par exemple, qui est devenu un festival très populaire et qui ont un petit peu, ça a beaucoup dédiabolisé l'image des métalleux. Au moins dans la population française. Et puis le jeu de rôle, je dirais, repopularisation aussi avec Stranger Things, qui remontre que Donjons et Dragons, c'est cool. Et puis les actual play aussi, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc, des univers communs. Hein. Donc, nous, imaginaire, la fantasy et la science-fiction, c'est un petit peu notre spécialité. C'est vraiment des univers dont beaucoup de jeux de rôle s'inscrivent là-dedans, et puis pas mal de groupes de métal aussi s'inspirent de ces univers imaginaires. Et on a vraiment un bel exemple à la fin des années 80 avec Paul Strower, groupe de death metal anglais signé sur Eric Records, mais qui a un deal avec les Games Workshop, et donc ils reprennent les visuels de l'univers Warhammer, alors l'univers fantasy, puis l'univers aussi Warhammer 40 000. Et tous les textes, au moins sur 2 albums de Paul Strower, s'inspirent en fait de l'univers de Warhammer. Alors ça donne des idées aux gens de Games Workshop qui se disent tiens, on fait déjà plein de trucs, et si on montait un label de métal? Eh bien, c'est raté. Le label va durer 2 ans, il y aura 10 d'albums de hard rock anglais, on va dire, qui sortent plutôt des groupes assez soft par rapport au métal extrême de Paul Strower. Et ils ont beau avoir bénéficié des visuels, surtout de Warhammer 40 000, ils se plantent. on peut le dire. Grosse avancée dans le temps, hein, pour moi dans les années 90, bon, je ne sais pas, c'est pas mon truc, avec donc, voilà, la repopularisation notamment de Donjons & Dragons. Aujourd'hui, on parle de D&D et Metal sur Bandcamp. Donc on a quelques groupes vraiment inspirés par Donjons & Dragons, donc Gygax, hein, qui ont quand même demandé l'autorisation au fils, enfin, un des fils de Gary Gygax, de pouvoir s'appeler comme ça. Leurs albums ne parlent que de leur campagne et aussi de jouer des campagnes de Donjons & Dragons. Ils ont joué d'ailleurs à la... Je sais plus comment... c'est pas la Garycon, mais c'est une Gygaxcon, en fait, à hein, ses fils. On a aussi Throne of Iron, plus confidentiel. Eux, ils se sont pointés à la Gen Con, mais sans annoncer qu'ils allaient faire un concert de métal. Ils se sont fait virer au bout de deux morceaux, parce que ça empêchait l'État de pouvoir jouer. Throne of Iron, donc inspiration complètement Donjons & Dragons aussi. Et ils ont même certains titres qui sont composés en lançant des dés. Donc allez voir sur leur page Bandcamp. Pour moi, c'est un petit peu... Je ne sais pas exactement comment ça marche. Ça s'appelle Roll for Metal, et en fait, certains lancers de dés en fait, vont donner le rythme des morceaux. En les écoutant, ça ne paraît pas évident. Et puis, en 2020, quand même, un album de black metal anglais, c'est Orc avec l'album Punk Rock and Roll, inspiration complètement Donjons & Dragons, autant dans les visuels que dans les textes, et à l'intérieur de cette cassette, enfin plutôt livrée avec, une petite map à déplier, c'est livré avec un D20 et un pirate. En 2020 aussi, gros choc, je dirais, dans la mouvance old school renaissance avec Murborg, donc un jeu qui se full lance sur Kickstarter dans le Free League Workshop. Donc Free League, c'est la grosse maison d'édition suédoise qu'a Alien notamment. Et puis, ils décident en fait de profiter, on va dire, de leur popularité pour lancer des trucs un peu plus obscurs. Et notamment, ce jeu de rôle fait par deux métalleux, c'est affiché tel quel, en fait, dès le full lancement. Doom Metal Album of a Game, donc Murborg, jeu de rôle de Dark Fantasy, qui finalement n'intègre pas trop la musique, moi, je trouve, dans son but. Par contre, au niveau des visuels, qui sont donc dessinés par Johan Nord, il y a clairement du fan service pour les métalleux. Vous voyez qu'il y a des croix inversées, par exemple, un peu sur pas mal de personnages, alors qu'en fait, il n'est pas du tout question de crucifixion dans cet univers, même s'il est beaucoup question de religion, puisque ça tourne autour d'une religion monothéiste naissante qui est en train de faire disparaître en fait, toute trace de choses fantastiques et païennes de la petite île sur laquelle ça se passe. C'est aussi un monde qui est en train de disparaître. On demande au maître du jeu de lancer les dés souvent pour déclencher des cataclysmes, des plaies en fait. Et à la septième, le monde disparaît et vous êtes censé brûler le livre. Donc il y a ce côté Doom, et en fait le Doom, c'est le Doom Metal aussi qui a soi-disant inspiré surtout Johan Nord. Donc dès le lancement du jeu, Johan Nord publie sur Spotify sa playlist. Et la première page du jeu, il y a la liste de tous les groupes qui ont participé à son inspiration pour créer ce jeu. Et puis, chose un peu étrange, et bien en fait, l'album qui sort, parce que les full lancements, ça permet aussi de débloquer des bonus et de rajouter du matériel en fait, dans la production du jeu quelques mois ou quelques années après. Et en fait, à l'époque, ils disent, bah, tiens, on va faire une cassette et ce sera confié à un label italien qui s'appelle Heimat der Katastrophe et ce sera du Blacken Dungeon Synth. À l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je vous en parlerai à la fin. C'est pas vraiment du métal. Ça marche bien, on doit être 1000 à full lancer le truc. On se retrouve sur un groupe Facebook et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de métalleux. Beaucoup de gens conseillent en fait. Tel ou tel album de black metal à diffuser en fond des parties. Il y a beaucoup. Le jeu ne fait que 88 pages, l'univers est à peine décrit. Donc il y a toute une communauté qui dit ah, mais sinon rajoutez ça, 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 ça. Les deux auteurs du jeu sont assez bluffés en fait par la réception auprès du public. Et puis ils disent ah, bah super ça, bah, si tu veux, Johan Nord, je outil, on met quelques pages sur la page du jeu, et puis ça fera un petit supplément pour rajouter des choses. Et en fait, ils reçoivent tellement de propositions qu'ils disent bah, c'est bon, on passe le truc en fait en partie. Donc, juste mentionner notre jeu, si vous faites des choses dessus, on arrête là. Nous, ce qu'on fait, c'est comme un groupe de métal qui fait son premier album, on va s'occuper du merch, du merchandising. Donc, il y a des t-shirts qui sortent, il y a des casquettes. Alors, vous voyez que d'ailleurs, le logo du jeu est de moins en moins visible. Avec ça, on peut tout à fait passer inaperçu dans un festival de métal extrême. Et puis parmi les gens qui se disent bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec mon bord, il y en a quand même qui font un album de métal, enfin, quelques années après. Donc c'est les Dead Robots, qui est un collectif qui est basé au Portugal. Et eux, leur spécialité, c'est de faire ce que j'appelle des bandes originales de modules. Donc ils écrivent un petit scénario, et ça c'est livré dans un vinyle où vous avez la musique qui va avec. Alors cette fois, ils invitent notamment un des guitaristes de Sun. Donc il y a un groupe, je dirais, de post-doom metal moderne, qui était cité d'ailleurs par Johan Nord dans ses influences, donc la boucle est un petit peu bouclée. Et donc vous avez un vinyle Gatefold qui se déplie, et ça vous sert d'écran en fait pour jouer ce module, parce que le maître du jeu, lui, le côté intérieur du vinyle, il a la map, puis il a aussi des tables de rencontre. Et dans les feuillets qui sont à l'intérieur du vinyle, et bien vous avez aussi des petites fiches pour les joueurs, et notamment la map pour les joueurs. Tout à l'heure, je parlais de l'influence en fait, du graphisme, de l'illustration métal, influence sur des rôlistes. Et ben, j'ai remarqué que les jeux de rôle qui se jouaient en enfer, bizarrement, avaient tous un peu des graphismes, enfin, pour une bonne partie d'entre eux. Vraiment inspiré notamment des logos en fait, du lettrage du groupe de métal. Regardez celui-là. Et puis, on a Hell Knight de Gabriel Quiroga, qui est un jeu de rôle qui se passe dans les années 80. Alors, il y a pas mal de classes de personnages, mais on est tous des démons qui reviennent sur Terre, en fait, pour remettre un petit peu d'ordre. Et Gabriel, qui ne dessine pas, lui, demande à des amis en fait, qui travaillent dans le fanzina, plutôt de la musique punk et métal, de lui faire ses visuels pour le jeu. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment un logo qui fait très ACDC Metallica. Et dans ce jeu, notamment, il y a une classe de personnages où on projette, en fait, le démon se projette de personne en personne. Ça, c'est tiré au dé complètement hasardeux. Et on peut se retrouver dans la peau d'un chanteur de air metal. Tales from the Loop, on peut incarner un ou une fan de métal. Donc c'est le jeu de rôle des années 80 qui sont un petit peu différentes. Et Simon Stalin Hag, l'auteur, enfin au moins de l'artbook dont le jeu de rôle est inspiré, fait vraiment référence. Et donc on reprend un peu des clichés sur ce à quoi pouvaient ressembler les ados dans les années 80, donc forcément plus c'est suédois. Donc on peut incarner un métallo, une métalleuse, compétences clés, agilité, charme, empathie. Et puis, il y a la suite qui est écrite, Films on the Flood, ça se passe dans les années 90, et là, effet Kurt Cobain, le métal disparaît. C'est devenu ringard, donc à la place, on peut devenir un rocker qui est très fan de Kurt Cobain, d'ailleurs. Alors, jouer un musicien maintenant, ou une musicienne de métal, alors là, je dis dans un autre univers. Alors, il y a Power Chords, qui est, je dirais, un supplément de contexte, en fait. Vous les jouez, donc les musiciens. Alors la pochette, elle fait vraiment métal. On a repiqué aussi un peu le lettrage de Metallica, mais finalement tous les styles de musique sont assez représentés dedans. C'est des gens qu'on travaillait sur Mage avant, donc on peut considérer que ça s'inscrit un peu dans le monde des ténèbres. C'est du urban fantasy. Par contre, je l'ai feuilleté vite fait et c'est très très réaliste, hein, on va dire, pour jouer des musiciens. On peut aussi incarner des elfes ou des vampires, mais un peu sous couvert hein, dans ce monde. Et le seul truc que je trouve intéressant dans ce supplément, c'est qu'on peut aussi jouer des gens qui gravitent autour du métier de musicien. Donc vous pouvez être manager, producteur de disques, enfin, il y a des classes de personnages, on peut aussi être agent de sécurité, groupie ou roadie. Gods of Metal Ragnarok, alors là on se balade entre deux univers, notre univers à nous qui s'appelle Mundane, qui est un petit peu chiant quoi, on peut dire, et puis un particulier à l'univers où les patrons, en fait, les dieux, sont des espèces d'icônes métalleux. Et c'est un jeu où on peut, donc, dans cet univers-là, on peut faire de la magie avec des instruments de musique, notamment des tambourins comme des super pouvoirs. Et ça, c'est pas la pochette du jeu, c'est la pochette d'une des deux bandes originales qui sont sorties. C'est pareil, ça a été fait en full lancement. Et en fait, cette pochette, c'est un vinyle qui peut aussi servir d'écran pour le jeu. Et il y avait aussi des médiators à débloquer dans les bonus à débloquer qui servent juste en fait à compter des points. Et musique métal, forcément, avec des gens d'Anthrax qui ont participé à un band original. Donc là, je vous parlais de jeux où on pouvait incarner un musicien de métal. Il y a aussi des jeux où on est obligé d'être un groupe. Alors quand je dis des jeux, c'est plutôt format fanzine. Hein. Get in the Van, c'est un petit fanzine, un petit supplément qui joue avec les règles de Troïka. Et en fait, on a le choix entre soit chanteur, bassiste, guitariste ou batteur. On choisit son style musical, il y a le air metal, le thrash metal, mais aussi le hardcore. Et ça raconte une tournée en fait. Vous partez en tournée dans votre van et tous les soirs, un concert sera un combat. Donc c'est vraiment les règles de combat de Troïka, mais là, vous vous battez contre le public. Enfin, il faut séduire le public, mais c'est vraiment joué comme un combat. Vous voyez que dans les compétences qu'on rajoute à nos lancers de dés, par exemple, on peut avoir le air whip. Faire, hein, j'ai plus de cheveux, mais faire tourner votre tête comme ça vous permet de gagner votre combat contre le public. Et si le guitariste et le bassiste le font en même temps, ça rajoute encore plus de bonus. Donc il y a plein d'idées rigolotes comme ça, et puis à la fin, il y a 4 prix tirés pour chaque style, et donc on retrouve des musiciens de métal assez célèbres. Là, c'est Kerry King de Slayer, enfin, pas nommé exactement, mais on voit bien l'inspiration. Glam Metal Monster Hunter, celui-là, je ne l'ai pas. Là, par contre, vous êtes un groupe de métal, de air metal, mais vous battez avec des démons. Alors, tout ça en 20 pages, quand même. Ce que je trouve cool, c'est vraiment la fiche de personnage qui représente un ampli. Et donc, vos 4 stats qui sont Glam Metal Monster Hunter. Deux jeux inspirés directement par un groupe de métal en particulier. Des fans de Face No More ont écrit ce jeu, The Real Thing RPG. Donc c'est pareil, deux Américains qui ont fou lancé cette chose. J'ai lu le premier, le jeu est approuvé hein, par Face No More. D'ailleurs, si vous connaissez bien, en fait, on a repris la tête des musiciens pour créer des PNJ dans ce jeu. Donc le jeu, en fait, a été écrit, alors c'est pas vraiment des Apocalypse, donc ils n'ont pas vraiment de. Il y a quelques moves en fait qu'ils ont rajoutés, qui sont d'ailleurs des titres de chansons de Face No More, mais c'est vraiment un jeu que je trouve très name-dropping. C'est-à-dire qu'il y a énormément de références. On a des extraits de chansons aussi qui arrivent un peu dans le livret comme ça, mais finalement, j'ai trouvé que c'était un peu que de la citation, et en fait, ça manque un petit peu de cohérence. Ils en ont quand même fait 3 qui correspondent chacun à l'album de Face No More. Donc en fait, il y a un scénario à la fin de chaque, qui est inspiré de choses qu'ils ont trouvées dans les textes de Face No More. Rotting Christ, beaucoup plus abouti, alors ça c'est français, c'est fait par Batro et puis je ne sais plus quel auteur. Rotting Christ, dans le groupe Metal Extrême grec, qui existe depuis pas mal de temps déjà, donc leur concept visuel et puis dans les textes des albums, c'est que Jésus n'est pas mort sur la croix et. Et bien, il est resté depuis 2000 ans sous forme de zombie. Il essaie de redevenir populaire sur Terre. Il gère ça du fond des enfers. Donc, c'est un jeu très blasphème, hein, comme la musique de Rotting Christ. Le truc, c'est que le jeu de rôle métal et musical, Batro et puis le co-auteur ont décidé d'avoir des règles qui incorporent vraiment la musique. Alors, c'est pas facile à expliquer. Pour les interactions entre PJ et PNJ, on joue ça au dé. Par contre, les combats, ça joue vraiment sur des portées, en fait. Et où chaque joueur, en fait, en fonction de ses compétences, doit poser des médiators. Parce qu'en fait, dans cet univers, la musique, l'univers est régi, non pas par les lois de la physique, mais par les lois de la musique. Une musique qu'on appelle primordiale, Donc vous pouvez influencer la réalité. Ce qui est rigolo, c'est que chaque combat commence par un morceau joué par les autres. Et en fait, il faut d'abord copier en fait, le morceau des autres en le décomposant en partition. Et ensuite, on peut reprendre la partition à son avantage et remodifier le morceau. Toutes les musiques que vous passez normalement en jouant à ce jeu sont des chansons de Rotting Christ. Donc c'est très écrit. Et en fait, dans les scénarios, vous devez scanner des codes barres comme on a vu tout à l'heure. Et le temps du combat, enfin vous, votre rang pour agir sera vraiment le temps de la chanson. Je parlais de Dungeon Sound tout à l'heure, j'ai le temps un peu quand même. Ouais, je disais que c'était le bâtard du black metal, parce qu'en fait c'est pas du metal, le Dungeon Sound, mais c'est une musique qui a été inventée par des black metaleux dans les années 90, qui avaient un petit synthé chez eux, et puis on va dire entre deux moments de gros blast. Vous voulez une petite ambiance un petit peu dark, donc faites un peu la vite. Et puis on a aussi Burzum quand même qui s'est retrouvé en prison parce qu'il avait assassiné quelqu'un, et le seul truc qui a eu le droit de rentrer en tôle, bah, c'était un synthé. Donc le gars a composé des albums, à l'époque on appelait ça du dark ambient, mais aujourd'hui c'est un peu les prémices du Dungeon Synth. Donc Dungeon Synth, en gros musique médiévale refaite sur un synthétiseur. Bon, quand c'est sorti, on s'est dit waouh, c'est un petit peu cheap, mais aujourd'hui on a une deuxième génération de musiciens qui là fait des choses vraiment très bien produite, notamment un petit peu les gens qui sont là, enfin, surtout Orcus en Angleterre. Et cette deuxième génération s'est complètement affranchie du black metal, ces univers, là, on peut dire certaines idées politiques. Et on a notamment son Arcane, je ne sais pas si vous connaissez le logo des Royaumes Oubliés. Là, ils ont complètement recoqué le logo. Et d'ailleurs, sur le link à l'album de Sandra Arcane, enfin, le disque est livré avec des feuilles qui correspondent en fait aux deux musiciens et comment on peut les intégrer en tant que PNJ dans le jeu. Donc une génération de musiciens très inspirée par les Royaumes Oubliés, une musique que moi personnellement j'utilise beaucoup plus pour ambiancer mes jeux de rôle de fantasy que du black metal. Et puis donc dans la scène Dungeon Synth, c'est le label Heimat der Katastrophe, qui ont commencé avec des bandes originales de modules, alors qu'ils écrivaient eux-mêmes, hein, pour le coup, ça commençait comme des cassettes. Alors j'en ai mis, là, normalement, par magie, le sans imaginer, c'est monté dans le coma, pour aller voir si vous voulez. Cassettes, donc, alors pourquoi des cassettes? Parce que dans le black metal, la cassette, c'était très populaire aussi, parce que c'est des musiques underground dans les années 90. Vous pouvez faire ses copies soi-même, ça coûte 2 euros à poster à quelqu'un de l'autre côté de la planète, donc il y avait moins de CD de vinyle qui étaient vraiment des trucs carrés. Quand les groupes de black metal arrivaient à saigner sur des gros labels. Donc on est resté sur la cassette, et donc vous dépliez votre cassette, alors dedans vous avez vos prix tirés, là, une map, vous dépliez le livret de la cassette, il y a la map, et en fait à chaque chanson sur l'album correspond à un endroit sur la map, et puis vous avez un petit livret avec qui vous dit ce qui se passe, en fait, les interactions à chaque endroit de la map. Alors tiré à, je sais pas, 200 exemplaires comme ça, puis c'est devenu un petit peu hype. Et maintenant, ils font des vinyles. Donc là, pareil, la musique sur le vinyle du module qui ressemble pas mal au vieux module de Donjons et Dragons. Hein, donc, couverture extérieure en couleur, et puis à l'intérieur, un livret en noir et blanc. Et puis, dans les pages de l'extérieur du module, on a aussi la map. Je voulais citer aussi vite fait un jeu de psychédélique metal de Lucas Reget, c'est Traviolet Grassland. Qui va sortir cette année normalement chez Pattern Records en version française. Quelqu'un aussi là, alors il est illustrateur et auteur de ce jeu, qui est un gigantesque bac à sable de science-fiction, plus influencé, moi je trouve, par heavy metal, mais là la revue, en fait, Metal Hurlant, plus un visuel, ça ressemble un peu à du Mobius dans Dune. Et il donne quelques conseils de musique, mais surtout parmi ses fans, en fait, une grosse communauté qui s'est construite autour, et des gens qui font des playlists Spotify. Et vous voyez que le premier titre, c'est un morceau de Qus, donc ils sont les inventeurs du desert rock. Et, voilà, pour un jeu qui se passe dans un genre de désert, c'était tout à fait approprié. Et puis j'ai fini sur Philippe Casa. J'ai cherché un peu si des illustrateurs célèbres, en fait, du jeu de rôle avaient été contactés par des groupes de métal pour faire les visuels, ou l'inverse. Je n'ai pas trop trouvé. Et là, je voulais quand même mentionner Philippe Casas. Parce que nous, Imaginaire et la Ville d'Angers, on lui a remis un prix en 2023, le prix à Jordan. Et donc, Philippe Casas, on va dire illustrateur, surtout auteur aussi, de science-fiction, on va dire peut-être tellement célèbre qu'il y a quand même des gens du jeu de rôle qui ont été cherchés. Là, l'appel de Toulouse, c'est les Brécrans, c'est peut-être la version 3, hein,
4.
Voilà, début des années 90. Il a aussi travaillé sur Manga Boys, hein, plus confidentiel. Et puis, ces dernières années, Philippe fait de plus en plus de visuels pour des groupes, notamment des groupes de métal. Donc, le groupe de trash metal Voidkampf, groupe de trash metal breton, si je me rappelle bien. Et puis, plus récemment, Stift, groupe de métal psychédélique qui, eux, ont craqué en fait, sur les visuels. Ça, c'est l'Oiseau Poussillon, célèbre histoire de Gaza sortie dans Metal Hurlant à la fin des années 70. Et qui ont été chercher Philippe en lui demandant est-ce qu'on peut reprendre en fait, les visuels de ta bande dessinée qui est sortie il y a longtemps. Et puis eux, ils ont refait des clips en fait à partir de ça. Donc c'est assez intéressant. Voilà, et ben, ce sera tout pour moi.
La barge russe. Tous les jours, 14h05, avec Johnny Chivbeck, The Russian Fortune, le mercredi soir par quinzaine à 21h30. Avec Helmut Schwartz. Le professeur Schmilbli. Correspondant régulier. Expert. Le cinéma. Et de la vie de Friedrich Nietzsche. Jeanine, secrétaire des affaires
de communication profonde,
Helmut et Johnny. Jet FM, la radio qui tue.